Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons aujourd'hui à l'étude numéro 50 concernant le formidable sujet qui est la prière. Les deux thèmes que nous aurons aujourd'hui seront premièrement la loi de l'harmonie et la prière est un besoin. Nous avons mentionné quelques-unes des lois de l'exaucement de la prière. Il en existe encore beaucoup d'autres que vous pourrez découvrir vous-même en lisant votre Bible. Il a été question de la prière dans le secret. Christ a dit « Lorsque tu pries, entre donc dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans ce qui est secret. Et ton Père qui voit dans ce qui est secret te le rendra. » Saint Matthieu chapitre 6, verset 6. J'ai pris cela d'une version allemande, mais rassurez-vous, le texte est bien dans ce sens. Et nous avons constaté qu'une partie de ce que Dieu veut nous rendre nous vient sous forme des fruits de l'Esprit Saint. Si vous voulez être patient, alors enfermez-vous dans votre chambre. Patience, amour, joie, tous ces fruits de l'Esprit Saint nous sont donnés lorsque, évidemment, nous passons beaucoup de temps seuls, seuls à seuls avec notre Père Céleste. À présent, je voudrais aborder une autre loi concernant la prière. Appelez-la, si vous le voulez bien, la loi des deux ou trois qui prient ensemble. De même qu'il est des choses... Il y a des choses qui ne nous sont données que si nous prions individuellement, mais il y en a d'autres qui sont accordées lorsque nous unissons notre prière à celle d'autres croyants. Il est donc des choses qu'on ne peut obtenir sans la prière avec d'autres croyants. Peu de gens le savent ou acceptent de le croire. C'est une constatation que j'ai faite dans le monde entier. Les chrétiens n'imaginent pas ce qui peut se produire lorsque l'on prie à plusieurs. J'ai parfois l'impression que 10% seulement des chrétiens ont entendu leur propre voix s'exprimant dans la prière en public. Et c'est une bien triste situation de l'Église, car chaque chrétien devrait prier avec un autre croyant. Il est possible que des centaines de gens soient passés par des difficultés extrêmes, par la maladie, voire même la mort, simplement parce qu'ils n'avaient personne, absolument personne, à pouvoir prier pour eux. La prière avec les autres, c'est une nécessité absolue. Si ce n'était pas le cas, Christ n'en aurait pas fait un des grands principes de la prière. Cette loi de la prière donnée par Christ se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 19. Là, il dit « Je vous dis encore, en vérité, que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, et ceci pour demander quoi que ce soit, eh bien, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. » Aussi, j'ai vérifié cette promesse de Christ tout au long de ma vie, et c'est pourquoi je sais qu'il s'agit d'une loi tout aussi vraie, croyez-moi, et d'une grande importance qu'elle merveilleuse, on peut dire, théorie, ou si vous voulez, thermomètre mathématique. Avant de l'énoncer, j'aimerais tout de même vous faire part d'un témoignage. Un jour, une fillette est rentrée de l'école en disant « Maman, la fille du maître a la poliomyélite. On me dit même qu'elle va mourir. Quelle serait, chers amis, votre attitude dans un tel cas ? Vous hausseriez peut-être les épaules d'un air résigné en disant « Oh, quel dommage que l'on ne puisse rien faire !» Eh bien, de nos jours, on avoue encore son impuissance contre la poliomyélite. Mais ces mots ne font pas partie du vocabulaire de Christ. Et oui, lui pouvait aider les hommes. Et en voyant les malades et les pauvres, il ne s'est jamais exclamé « Oh là là, quel dommage ! Comme c'est bien triste !» Mais il répond à la misère. Et en plus, il guérit. Et il nous a appelés, chers frères et sœurs, à être ses envoyés pour accomplir son œuvre au nom du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas faire son œuvre tant que nous n'y croyons pas, ça c'est clair. Nous devons croire en Christ et manifester notre amour pour lui en lui obéissant. La mère de cette fillette n'a pas dit « dommage ». Elle faisait partie d'un groupe de prières et elle avait déjà assisté à un certain nombre d'exaucements. Ou si sa fille, étant repartie à l'école, elle a téléphoné à trois de ses amis pour les inviter chez elle le soir même, et ceci en compagnie de leur mari. C'est très important. Et voyez-vous, c'est ainsi que ce soir-là, quatre couples se sont réunis pour prier au sujet de cette mourante. Les cercles de prière féminins sont bien, les cercles masculins aussi, mais les cercles mixtes ont plus de puissance encore. En outre, les heures du soir sont propices à la prière pour les cas d'urgence. La journée est terminée, il n'y a plus d'obligation particulière et je suis certain que nombre d'entre vous seraient prêts à se déplacer pour rejoindre un groupe de prière pour un enfant gravement malade si vous en ressentiez la nécessité. Mais en fait, vous ne le ferez peut-être pas parce que tout simplement que vous ne croyez pas que cela serve à grand-chose. Plus tard, j'ai demandé aux quatre couples par quoi ils avaient commencé leur soirée. Ils m'ont répondu que leur hôte a préparé du café pendant que les femmes confectionnaient des sandwichs afin que chacun soit bien installé. À premier abord, ça a l'air un peu mondain, mais voyons la suite. Ces gens se connaissaient bien. Chacun croyait en la prière, mais ils ne s'étaient jamais réunis ainsi, puisqu'ils appartenaient à des églises différentes. Pourquoi mentionner le café et les sandwichs ? Mais tout simplement parce que la joie est l'un des facteurs primordiaux pour l'exaucement des prières. Si lorsque vous priez, vous affichez une tête d'enterrement, vous n'attendez apparemment pas d'exaucement de vos prières. Mais si par contre, vous attendez d'être exaucé, alors vous priez joyeusement. Aussi, j'ai également fait la constatation suivante. Plus on connaît la joie spirituelle dans la prière, plus celle-ci devient puissante. J'ajoute que ces familles avait invité une personne supplémentaire à cette rencontre, c'est-à-dire c'est la mère de la malade. Ça, c'est important. Aussi, je m'en réjouis, car l'amour est aussi un facteur très important dans nos prières, et nul ne peut aimer autant un enfant que sa propre mère. Ainsi, ce groupe a fait entrer l'amour dans le cercle de prière. Alléluia. Il renissait la foi, la joie et l'amour. Peu importe le temps que ces personnes ont passé en prière, car je sais par expérience qu'une courte prière peut être aussi puissante que celle qui dure plus d'une demi-heure. Ce groupe a donc entrepris de prier pour cette fillette qui se trouvait dans le coma déjà, et ceci depuis une semaine, et même sous assistance respiratoire. Ils ont donc prié dans la foi, et dans la joie, et dans l'amour. Et les participants se sont séparés après cela, le cœur plein de joie et de paix. Peu après minuit, eh bien, l'enfant a commencé à bouger. Et puis elle est revenue à elle, et a même demandé à boire. Sa guérison complète était constatée 2 jours plus tard. Il faut bien comprendre que tout ne peut pas toujours se faire d'un claquement de doigts, surtout quand quelqu'un est entre la vie et la mort. Aussi, les médecins, infirmières et gens du pays savaient que vraiment un miracle s'était accompli, parce que un petit groupe de personnes s'était soucié carrément d'un enfant qui était gravement malade, et ceci au point de se réunir pour prier ensemble, lutter, intercéder ensemble. On me demande souvent quelle est la durée nécessaire à une prière pour un sujet particulier. On peut répondre d'une manière générale jusqu'à ce que la paix envahisse votre cœur, car c'est la preuve de la présence de l'Esprit Saint et même le signe que la prière a trouvé son exaucement. Elle n'est peut-être pas exaucée toujours dans le sens où on l'a priée, mais Dieu a entendu. Et il prend les choses en main, et ça, c'est absolument certain, gloire à Dieu. Examinons maintenant cette loi de la prière d'un peu plus près. Christ déclare « Si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu, chapitre 18, verset 19. Quelle promesse extraordinaire! Mais Christ, écoutez bien cela, Christ n'a pas dit « si 2 prient ensemble », mais « si 2 se mettent d'accord ». Je répète, Christ n'a pas seulement dit « si 2 prient ensemble », mais il a dit « si 2 se mettent d'accord ensemble ». Et ça, croyez-moi, c'est très différent. En grec, se mettre d'accord équivaut à s'harmoniser. Justement, si 2 êtres sont en harmonie l'un avec l'autre, ils pourront alors prier ensemble et être exaucés. Christ ajoute, car là où 2 ou 3 se trouvent rassemblés en mon nom, « Je suis là, au milieu d'eux », Saint Matthieu 18, verset 20. Ici intervient un nouveau chiffre. Il y a le chiffre 3. Christ aurait pu dire 4, 12, 50 ou 1000, car le principe reste le même. Lorsque nous nous réunissons en son Saint Nom et dans l'harmonie, alors Christ est vraiment au milieu de nous. C'est dans la présence de Christ que réside le secret de la communion qui unit ceux qui prient. Là aussi est le secret de la puissance de la prière au sein de l'Église locale ou de tout groupe appartenant à l'Église. Et c'est également là que réside le secret du bonheur pour la famille. Seul l'amour de Dieu dans le cœur de chaque individu est vraiment capable de réaliser cette harmonie. Si un homme aime vraiment Dieu de tout son cœur, et si son épouse aime Dieu de toute son âme, alors ils sont deux en union parfaite avec Jésus-Christ et par conséquent entièrement unis l'un à l'autre. Et cela est vrai pour tous les genres de communion. L'amour est le facteur capable de réaliser l'union dans toutes les relations humaines. C'est ce qui est tellement nécessaire à nos églises. Peut-être vous sentez-vous maintenant poussé à prier pour quelqu'un, mais avec qui? Vous pensez d'abord à votre pasteur, pourquoi pas? Car il est l'homme de Dieu, et il croit vraiment à la puissance de la prière. Cependant, vous réalisez que depuis quelque temps, vous critiquez ouvertement, peut-être pas vous personnellement, mais ceux autour de vous critiquent ouvertement ces serments. Ça, c'est grave. Vous changez alors d'avis? Et là, dans ce cas-là, vous avez raison, car vous ne serez pas en harmonie avec votre pasteur. Vous pensez ensuite à une femme, peut-être, par exemple, la responsable d'un groupe de prière. Elle est extraordinaire et hors du commun. Elle sait si bien prier, elle a des mots choisis, elle a fait la Sorbonne. Et lors des réunions de prière, c'est vraiment un plaisir de l'entendre. Aussi, vous vous demandez, est-ce à elle que je dois m'adresser? Moi, je vous réponds par la négative. Pourquoi? Ne choisissez pas quelqu'un dont vous êtes peut-être, sans le savoir trop bien, un peu envieux, car vous ne pourrez jamais être en harmonie avec une personne dont vous êtes, dans votre subconscient même, envieux. Alors, qui dois-je choisir? Eh bien, choisissez quelqu'un de moins en vue. Quelqu'un qui vous paraît plus humble, car l'humilité a une grande importance dans la prière. Vous vous rendez compte que vous pouvez vous approcher d'une telle personne et de lui ouvrir carrément votre cœur, car elle n'est pas du genre à critiquer jamais. Elle ne veut rien imposer, mais elle fait partie de ceux qui comprennent et qui prie avec beaucoup d'amour. À présent, vous réalisez pourquoi Christ ne dit pas « si deux ou trois s'accordent », mais il dit seulement « deux ». Deux. Il n'a pas dit quatre, cinq, six, deux. Il n'utilise le chiffre trois que pour expliquer cette loi. Christ savait probablement que c'est déjà un grand privilège de trouver une personne avec laquelle on peut connaître une telle harmonie. Si vous en trouvez trois, quatre ou même cinq, c'est vraiment merveilleux, tant mieux. Il demeure que chaque chrétien devrait avoir au moins un partenaire de prière ou adhérer carrément à un groupe de prière. Les réunions de prière sont en constante évolution. Oh, évidemment pas partout. Dans beaucoup d'endroits, c'est même le contraire. De plus en plus de gens attendent avec beaucoup d'impatience la réunion suivante pour savoir de quelle manière le Seigneur a béni et exaucé les rencontres précédentes. Et c'est presque un retour au temps du Nouveau Testament. Chers amis, voici par exemple le témoignage d'un pasteur et ce qu'il essaye de nous dire. Écoutez ce pasteur. Dans une église dont il était pasteur, alors il dit évidemment « je », alors je recommence, dans une église dont j'étais le pasteur, puisque c'est lui qui parle, nous avions une réunion de prière hebdomadaire fréquentée par une cinquantaine de personnes. Cependant, lorsque nous avions un sujet de prière très, très particulier, je recherchais trois d'entre elles pour prier ensemble après la réunion. Et je choisissais des gens qui étaient en parfaite harmonie. J'ai constaté que ce tout petit groupe avait toujours beaucoup plus de puissance que l'assemblée tout entière. Pourquoi cela? Eh bien, parmi l'assemblée, hélas, il se trouvait des gens qui se critiquaient violemment en s'aimant absolument pas, se sentaient vexés par une tierce personne, jalousaient les autres, ou bien dont le seul but était tout simplement de valoriser leur propre point de vue. Chacun d'entre eux s'éloignait carrément et éloignait en plus la puissance de l'Esprit-Saint. Donc, la puissance de l'Église locale, elle réside dans l'amour de Dieu. Si ses membres ne remplissent pas cette condition-là, l'Église locale se prive d'une force considérable. Nous devons vraiment aimer Dieu et, en plus, nous aimer les uns les autres. Ce qui est encore une autre histoire et pas toujours facile. Et c'est là la conclusion de mon expérience dans les cercles de prière. Pourquoi lors de la première Pentecôte, l'Esprit-Saint n'est-il pas descendu le cinquième ou le huitième jour? Pourquoi a-t-il fallu attendre 10 jours? Nous l'ignorons, mais nous pouvons en imaginer un peu la raison à la lumière de cette loi donnée par Christ à propos de la prière. Parmi les croyants et les disciples, peut-être certains étaient-ils critiques, impatients ou même jaloux. Pour ma part, je crois qu'au 10e jour, lors de la venue de l'Esprit-Saint, tous étaient enfin unis et en plein accord et ils ne formaient qu'un seul cœur et une seule âme. Donc, il suffit de remplir les conditions de cette loi pour que vienne l'Esprit-Saint. Je suis convaincu que cela se produit encore de nos jours dans toute Église remplissant cette condition. C'est aussi le cas de tout groupe de prière, de tout conseil d'église ou de tout autre groupe répondant à ces critères. Lorsque l'harmonie est vraiment parfaite, alors la paix et l'amour peuvent régner au sein d'un groupe et Christ est vraiment présent. Nous prions depuis des années en tant que chrétiens afin de retrouver la force de devenir d'authentiques églises chrétiennes. Nous prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples et nous pensons d'atteindre Dieu. Mais ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui nous attend, qui nous a toujours attendus. Vous donc, chrétiens, reprenez votre Bible et lisez ce que Christ déclare. Et croyez en chacune de ses paroles. Aimez-le en lui obéissant, alors votre église deviendra un havre de grâce et votre ville peut devenir une ville de Dieu. Rendez-vous donc dans votre chambre et fermez la porte derrière vous et passez beaucoup plus de temps, je ne veux pas dire par là du temps en demi et en heure, mais du temps vraiment profond, sincère et démuni de tous les petits péchés qui sont vraiment des fois pas très merveilleux, pour ne pas dire autre chose. Donc, là, cherchez tout simplement quelqu'un avec qui vous pourrez enfin prier. Oui, quelqu'un qui a autant besoin de vous que vous avez besoin de lui ou d'elle. Alors portez les fardeaux les uns les autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Priez avec quelqu'un, c'est le meilleur moyen de porter ses fardeaux. Chers amis, que Dieu vous bénisse et que son règne vienne et que nous fassions sa volonté ici-bas comme elle est faite dans les cieux. Je vous fais confiance, chers frères et sœurs, et aussi je dis que Dieu vous bénisse. Nous arrivons à la deuxième partie de notre étude, la prière devrait être un besoin. Chers frères et sœurs, vous arrive-t-il de prier? Excusez-moi de vous poser une question aussi abrupte, mais de votre réponse dépend probablement votre avenir éternel. Voyez-vous, on n'est pas sauvé parce que l'on fait des prières comme certains le croient. Mais la façon dont on prie révèle notre degré de piété. Vous me rétorquerez probablement qu'il vous est déjà arrivé de prier. Vous avez élevé votre voix et votre cœur vers Dieu chaque fois que vous avez éprouvé un besoin urgent de son aide. C'était peut-être en période de guerre, ou lors d'un grand danger, ou encore dans une impasse de votre vie, à l'occasion d'une maladie ou d'une grande difficulté. Aussi, c'est un fait que le besoin prouve la prière authentique. C'est une grande vérité qu'il faut vraiment souligner. En effet, simplement prier par mode, par habitude, par routine même, n'induit pas la prière véritable. Ce n'est jamais l'obligation qui fait de nous des êtres de prière, mais c'est le besoin. Avez-vous compris cela? Ce n'est jamais l'obligation qui fait de nous des êtres de prière, mais c'est le besoin. Cela étant, quelle est votre position devant Dieu? Êtes-vous un mendiant ou un enfant? Vous pouvez en effet vous présenter devant Dieu comme le mendiant, rappelez-vous le mendiant, qui frappait à la porte pour demander l'aumône. Vous pouvez aussi manifester à l'égard du Seigneur, du ciel et de la terre, des sentiments filiaux. Et cela m'amène à vous poser la question fondamentale. Dieu est-il vraiment votre Père céleste? Ou bien ne venez-vous à lui qu'en cas de besoin ou d'urgence? La Bible raconte dans Saint Luc chapitre 15, la plus belle et merveilleuse histoire du monde. C'est celle de l'enfant prodigue. Ce récit illustre ce qu'est la véritable prière, la prière spontanée. L'enfant prodigue était réduit carrément à la mendicité. Il avait faim, il avait froid, il était même affaibli. Tout en gardant les porcs d'un étranger, il pensait à son père et à l'abondance de la maison paternelle. Et c'est alors qu'il a décidé d'y retourner, non pas comme il en était parti, mais dans le repentir, dans une profonde humilité, et à genoux, au pied de son père, sur le seuil de la maison, où il est revenu en haillons, qu'a-t-il demandé ? Il a demandé du pain pour apaiser sa faim, des habits pour couvrir sa nudité, des soins pour recouvrir la santé, pour pouvoir de nouveau être au bénéfice de la santé. A-t-il demandé tout cela? Réfléchissons. Je dirais non, 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 non. Il n'a rien demandé de tout cela, qui pourtant lui était absolument nécessaire. Donc, avant tout, chers frères et sœurs, il a demandé pardon humblement. Il a demandé pardon. Parce que c'était vraiment le besoin le plus pressant de son cœur affligé. Il a dit, « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Saint Luc, chapitre 15, verset 18. Et voyez cette prière à peine articulée. Le Père donnait déjà des ordres pour que sa qualité de fils, aussi de héritier, soit absolument et totalement rétablie. Tout le reste, la nourriture, le vêtement, les soins et sa dignité, lui ont été donnés par-dessus tout. Car voyez-vous, la prière, elle doit être avant tout un cri qui vient du cœur. Quel est le premier cri d'un enfant retrouvant son père? C'est papa. Papa, tout simplement. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8, verset 15. Chers frères et sœurs, Dieu veut vraiment devenir notre et votre Père. Seulement, voulons-nous devenir ses enfants? Là, c'est encore une autre question. Le salut et l'héritage sont préparés du côté de Dieu. Ils sont prêts. Mais ils ne sont donnés que à ceux qui le demandent. Or, si nous les trouvons en Dieu, notre Père, comment allons-nous lui parler? Car prier n'est rien d'autre que parler à Dieu. Certains font de la prière une récitation que le Seigneur qualifie de rabâchage. Ne rabâchez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils sont exaucés. Saint Matthieu chapitre 6, verset 7. Évitez donc de leur ressembler. C'est un conseil des plus utiles. Dieu aime les prières précises qui sont spontanées et qui jaillissent évidemment du plus profond de notre cœur. Si vous vous adressez à votre bien-aimé, c'est certainement avec des élans qui viennent du plus profond de votre cœur, car votre bien-aimé, vous l'aimez, vraiment vous l'aimez. C'est votre épouse, c'est avec elle que vous partagez tout. Donc, même si nous lisons un texte, nous devons en prononcer les paroles avec tout notre cœur, car la prière requiert beaucoup plus que simplement une prière qui serait que des mots merveilleux, des mots bien dits. Non, dans notre prière, n'ayons pas peur qu'il y ait des gémissements et peut-être même des soupirs. Cette prière réclame davantage de foi que simplement de raisonnement. Aussi, c'est pourquoi abandonner toute forme de prière qui ne correspond pas aux sentiments ou aux besoins de votre cœur. Le vrai chrétien ne répète pas 100 fois par jour absolument la même prière. Il prie ce qu'il a à prier de tout son cœur. Il fait connaître ses besoins à Dieu par toutes sortes de supplications avec des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements. La Bible insiste beaucoup pour que ceux qui prient le fassent avec confiance et avec foi, même si la prière dure que 10 secondes. Cela suffira. Je vous citerai aussi Saint Matthieu chapitre 7 verset 7 où il est dit « Demandez et on vous donnera. Et puis si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ?» Saint Matthieu chapitre 7 verset 11. À la lecture de ce passage, certains pourront dire qu'ils ont demandé sans rien recevoir, ce qui n'a pas manqué de les étonner. Et ceci au vu des promesses qui sont pourtant précises dans la sainte parole de Dieu. Voyez-vous, la question de la prière et de son exaucement nécessite en fait une explication supplémentaire. Notez bien que Christ ne dit pas que quiconque demande reçoit ce qu'il a demandé. Nous en déduisons cela, mais Christ ne le dit pas. Et aussi, mon expérience a prouvé que cela n'arrive pas toujours ainsi. Dans ce passage, le Seigneur ne dit pas « quiconque demande reçoit tout ce qu'il demande », mais il dit « demandez » et on vous donnera, puis il va marquer là un petit arrêt avant de poursuivre. Et là, il va dire, cherchez et vous trouverez. Cette pause est bien marquée, car le Seigneur sait que ce qui pourrait arriver de pire à un débutant qui est dans la vie de prière, et ce serait qu'il reçoive, par exemple, simplement tout ce qu'il demande. Ça pourrait avoir des conséquences pas toujours bénéfiques, je le pense sincèrement. Et c'est l'exacte vérité. Chers frères et sœurs, pouvez-vous donner à vos enfants absolument tout ce qu'ils réclament ? Simplement sous le prétexte de faire leur bonheur. Vous savez bien que cela est impossible et ça pourrait même être dangereux. Par ses promesses, le Seigneur veut nous dire, et je l'affirme à l'appui de mon expérience, que quiconque demande reçoit, mais pas toujours ce qu'il a demandé. Certes, mais il reçoit ce qui lui conviendra au mieux, et ceci selon l'omniscience de Dieu, qui lui connaît absolument toutes choses. Car voyez-vous, pour être toujours exaucé, il faudrait constamment prier selon la volonté de Dieu. Donc, prier ne consiste pas à soumettre Dieu à notre volonté, à ma volonté égoïste, à nos caprices, mais bien au contraire, plier, c'est de plier notre volonté à la sienne. Je répète, prier ne consiste pas à soumettre Dieu à notre volonté, à nos caprices, mais au contraire, c'est plier notre volonté, ma volonté, à la sienne. Du reste, Dieu fait preuve d'une immense bonté envers ceux qui débutent dans la vie de prière. Il ne leur dit pas « si vous ne savez pas prier, taisez-vous ». Bien au contraire, il les encourage. Il leur dit « demandez tout d'eux-mêmes et demandez simplement à votre façon, comme vous le pouvez, et surtout gardez confiance. Le Père fera la sélection de vos prières et il vous donnera ce qui correspond à vos besoins. Aussi, c'est pourquoi je vous exhorte à vous rendre dans votre chambre ou dans tout endroit où vous êtes tranquille. Votre chambre haute deviendra le lieu de distribution des grâces divines. Faites-en l'expérience sans tarder. Confessez-lui vos péchés et recevez le salut total qu'il vous offre en Jésus-Christ. Énumérez ensuite tous vos besoins par des prières journalières et persévérantes. Et vous expérimenterez alors la puissance et la libéralité de Dieu. Voyez-vous, dans le sujet de la prière, nous avons déjà évoqué la victoire. Et oui, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Pierre et Jean montaient au temple, et ceci à l'heure de la prière. Ce livre des Actes des Apôtres indique une telle vitalité dans l'Église primitive que toute comparaison avec l'Église actuelle sème carrément la confusion. Cherchons donc ensemble la raison des victoires successives relatées dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 2, l'Église est en prière à 9 heures du matin, qui représente la troisième heure du jour. Actes, chapitre 2, verset 15. Au chapitre 3, elle prie à 3 heures de l'après-midi. C'est l'heure de la prière. Actes, chapitre 3, verset 1. Au chapitre 10, l'apôtre Pierre prie à midi, qui est la sixième heure. Actes, chapitre 10, verset 9. Et au chapitre 12, il prie même la nuit. En outre, saint Paul exhorte « Priez sans relâche ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Donc, le secret de la vitalité de l'Église primitive, résidait entièrement dans la prière. Or, admettez que, de nos jours, les réunions de prière sont généralement assez peu, même très peu fréquentées. On prie parfois encore un peu, mais sans en attendre grand-chose. À l'inverse, les disciples de Christ, eux, il savait que l'heure de la prière est celle de la victoire. Arrivant au temple, l'apôtre Pierre et Jean ont trouvé un boiteux qui mendiait près de la belle porte. C'était un homme qui n'espérait plus grand-chose de la vie et qui n'attendait rien des autres, hormis peut-être une petite pièce de monnaie. Les deux apôtres l'ont regardé et l'apôtre Pierre a simplement prononcé cette phrase merveilleuse « De l'argent et de l'or, je n'en possède pas, mais ce que j'ai, eh bien je vais te le donner. Aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Actes chapitre 3, verset 6. Et la Bible rapporte que l'homme s'est bel et bien levé et qu'il s'est mis à marcher en louant Dieu. Il ne faut jamais oublier de remercier le Seigneur, car souvent, nous l'oublions, nous ne le faisons pas. Et ça, c'est vraiment une chose, à mon avis, affreuse, inadmissible. Voyez-vous, quand je commence à vous parler, je ne suis pas tellement sûr que je vais y arriver. Mais je demande à l'Esprit Saint de le faire à ma place, à utiliser ma bouche. Mais après, je dois surtout jamais oublier, et heureusement que l'Esprit Saint me l'a fait comprendre. Et si une fois j'oublie, oh là là, je suis vraiment mal à l'aise, je demande pardon. Mais je remercie toujours. Oui, deux importantes remarques s'imposent. D'une part, la prière doit déboucher sur quelque chose de précis, car tout peut être obtenu par la prière. Nous venons de voir que l'Église primitive est en prière dès le matin, et la prière en Actes chapitre 2 a eu pour résultat le baptême de l'Esprit Saint qui a été répandu sur tous ceux qui étaient présents. Actes chapitre 2 verset 1 à 4. Et plus loin, nous avons la guérison miraculeuse du boiteux. Et puis ce sera une vision missionnaire dans Actes chapitre 10 verset 9 à 16. Et ensuite, nous avons même la libération des disciples qui ont été emprisonnés. Actes chapitre 12 verset 6 à 11. Cela, chers frères et sœurs, représente exactement ce qui manque à l'Église actuelle. Il faut bien avouer que nous manquons de foi dans la prière. De plus, la prière, elle doit déboucher sur le témoignage, on peut dire, un témoignage de prière, car celui-ci en est carrément la conséquence. Saint Pierre a dit au boiteux, « Ce que j'ai, eh bien je te le donne. » Acte 3, verset 6. Ce qu'il possède et qu'il a donné, c'est ce qu'il a reçu. Il l'a reçu de Dieu par la prière. Les apôtres ne se contentent pas de prier tout simplement, mais ils croient et ils témoignent de la puissance de Dieu. Ils auraient pu passer 100 fois devant le boiteux, sans même lui parler et sans que rien ne se produise. Seul leur témoignage l'a fait se lever par la foi. Christ veut donc accomplir son œuvre à travers nous. Il nous rappelle qu'il est aussi venu pour les malades, et lorsque ceux-ci s'approchent de lui, ce n'est pas forcément dans le temple ou dans une synagogue, mais sur la montagne, peut-être au bord de la mer, ou bien le long des chemins poussiéreux de la Palestine. Par conséquent, chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous satisfaire simplement d'être confinés dans le temple ou dans une cathédrale. Après la guérison miraculeuse du boiteux, la foule s'est rassemblée autour de Saint-Pierre et de Jean. Alors Pierre a pris la parole. Il a dit: « Pourquoi vous étonnez-vous de tout cela ? Ou pourquoi tenez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous lui avons donné l'ordre de marcher ? » Non, c'est uniquement par la foi en son saint nom que son saint nom, le nom de Christ, a affermi celui que vous voyez et que vous connaissez. Et c'est la foi qui vient par lui, qui a donné à cet homme ce parfait état devant vous tous. Actes chapitre 3, verset 12 et verset 15 à 16. Voilà donc, chers frères et sœurs, de la matière à nous réjouir. Il n'est pas question de mon propre ego, de ma précieuse petite personne, ni de mes efforts pieux, mais c'est uniquement Christ qui agit à travers moi. Donc, la foi vient de ce que l'on entend, et on entend par une parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Donc c'est par la lecture et la méditation de sa sainte parole que l'on peut apprendre, que l'on peut vraiment apprendre à connaître le Seigneur sans oublier la prière de la foi. Jacques, chapitre 5, verset 15, oui, Jacques 5, verset 15, affirme carrément la promesse suivante à propos des malades. Il dit: la prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. Il ne dit pas le Seigneur l'aplatira. Jamais. Mais savons-nous au juste ce que veut dire cette foi? Ça a l'air des fois beaucoup plus compliqué que l'on ne pense. Savons-nous au juste ce que cela signifie? Vos réactions à cette question seront probablement diverses. C'est normal. Mais écoutez ce que dit Jésus-Christ. Il dit: si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, un petit grain tout mignon, ça veut dire vraiment même si vous avez très peu de foi. Saint Matthieu chapitre 17 verset 20. Que vous inspire, chers amis, cette proclamation? Peut-être rétorquerez-vous que vous fréquentez très régulièrement l'Église et que vous accomplissez scrupuleusement vos devoirs religieux. Bon, cela prouve tout de même quelque chose, que vous avez une certaine forme de piété. Mais elle n'est pas nécessairement l'expression d'une foi authentique. Il est malheureusement possible, c'est vrai, d'être très, très, très religieux, sans pour autant vraiment connaître le Seigneur. Hors de nos jours, il est crucial d'avoir une relation personnelle avec Dieu. On y accède par un repentir sincère de ses fautes et par une foi simple et confiante envers les déclarations de la parole de Dieu. Et cela me fait penser au verset suivant qui confirme merveilleusement mes propos. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. À lui, tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son saint nom la rémission des péchés. La parabole du semeur pose en effet cette question. Lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Dans une de ses lettres, saint Paul parle de certains naufragés de la foi. 1 Timothée chapitre 18. 1 Timothée, alors là, je ne me rappelle plus du chapitre, versets 18 à 19. Pardonnez-moi. Peu avant son martyr, saint Paul a écrit de nouveau à Timothée, et ceci depuis sa prison de Rome, annonçant que dans les derniers jours, croyez-moi, on y est très près, les hommes auront l'apparence de la piété, mais qu'ils renieront ce qui en fait la force. 2 Timothée chapitre 3. Mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous ferions bien de réfléchir sérieusement à ces paroles-là. Peut-être éprouvez-vous, comme moi, le besoin d'adresser à Dieu la même prière que les disciples. Ils ont dit, Seigneur, affermis notre foi, affermis ma foi. Commencez donc par actionner la part de foi que Dieu vous a accordée sous peine de ne pas pouvoir la développer. Dieu donne toujours dans la mesure où nous donnons aux autres. Et puisque je vous ai parlé de la foi, je rappellerai à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore la bienheureuse assurance d'être sauvés que ce salut doit aussi être saisi tout simplement par la foi. C'est ce que saint Paul expliquait aux chrétiens d'Éphèse par ces merveilleuses lignes. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres non plus, ceci pour que personne ne puisse se vanter. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Saint Augustin a écrit « Croire, c'est recevoir ». Voilà donc, chers frères et sœurs, le premier pas à faire dans la vie de la foi. Faites-le, oui, chers amis, faites-le dès à présent et recevez le pardon de Dieu si vous ne l'avez pas encore obtenu par la foi. Et puis, rappelez-vous que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Premier épître de saint Jean, chapitre 5, verset 4. Donc, c'est en comptant sur la fidélité et la puissance du Seigneur que nous parviendrons à quoi ? Que nous parviendrons à mettre en fuite le malin, le méchant, le diable, qui est notre adversaire. et que nous resterons debout, enfin debout, à l'heure de la tentation qui vient bientôt. Celui qui vous a appelé, il est fidèle plus que nous. Il vous affermira et il vous préservera du mauvais, du méchant. Livrons-nous donc sans réserve au Seigneur et appuyons-nous sur lui. Faisons-lui confiance et veillons à ce que rien ne s'insinue entre lui et nous. Persévérons dans la prière, alors il déversera sa puissance dans nos vies et à travers nous, et il bénira à travers nous, par nous, tous ceux qui nous entourent. On peut vraiment dire là, gloire à Dieu. J'aimerais à présent vous parler d'un passage de la Bible qui est, à mon avis, en quelque sorte la clé ou le levier majeur de la prière. Christ a dit, « Je vous dis encore, en vérité, que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu, chapitre 18, verset 19. Le secret de l'efficacité de l'Esprit Saint se trouve donc caché dans cet accord. Il n'est pas dans le nombre de personnes réunies, mais il est dans l'unité de leur foi. Et je dois le répéter, il n'est pas dans le nombre de personnes qui sont réunies, mais il est dans l'unité de leur foi. Donc, mieux vaut se grouper à deux ou trois personnes vraiment unies entièrement, qu'être en très grand nombre et dénué de cette unité. Un royaume divisé, et ça, c'est 100% biblique. Un royaume divisé contre lui-même perd totalement sa puissance et le combat devient de ce fait impossible. Il en est ainsi de nos cercles de prière. Ce ne sont pas nos paroles qui suscitent l'exaucement, mais c'est notre unité en Christ. Et quelle est, chers amis, cette unité, elle ne se produit que lorsque Christ règne parfaitement sur ceux qui sont réunis. La chair, ce qui provient de la nature humaine, elle ne sert absolument à rien. On peut se réunir chaque semaine pendant des années et n'accomplir qu'une œuvre qui restera totalement charnelle, sans aucune portée spirituelle. C'est simplement de la religiosité. Il faut donc réaliser cette unité et surtout la maintenir. Il faut surtout la désirer ardemment pour qu'elle règne au milieu de nous et qu'elle soit porteuse de fruits. Pour être ainsi immergés ensemble dans l'Esprit Saint, chacun devrait renoncer à l'égocentrisme, à ses projets personnels, à ses propres conceptions. Chacun doit vraiment confesser ses péchés et surtout y renoncer. Tout lieu ou tout lien avec l'ennemi doit donc être absolument rompu. La cellule de prière est avant tout un lieu d'introspection. Et c'est là que nous pouvons nous poser la question, où en suis-je vraiment avec Christ ? Est-il le maître absolu en moi? Ai-je totalement renoncé à ma propre justice? Suis-je vraiment un de ses disciples ou simplement quelqu'un qui prétend être son disciple? Chaque jour, nous devons prendre sa croix du salut, sa croix du pardon et de la délivrance, afin de demeurer libre, de dépendre entièrement de l'Esprit Saint, de Dieu, et de lui demander de nous faire connaître sa volonté. Fais-moi connaître ta volonté, ô Seigneur, afin que ta volonté devienne la mienne. Oui, Père Céleste, que ta volonté devienne ma volonté. Ça, c'est donc absolument important. La cellule de prière est donc le lieu le plus propice pour défaire les liens de l'iniquité. Naturellement, des résistances peuvent survenir en raison des liens cachés dont on ne parvient pas à se débarrasser. Et c'est souvent un dur labeur. Et la soirée entière, elle peut passer à tenter de trouver cette unité indispensable, car la force nécessaire à anéantir les obstacles réside dans cette unité-là. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut occuper toute la place en vous. Il ne peut pas cohabiter avec les idoles, les faux dieux, l'orgueil, l'impureté, en plus encore le mensonge. Lorsque cette unité se réalise au sein d'un cercle de prière, celui-ci devient un lieu où l'Esprit Saint agit en pleine puissance. Nous devenons ensemble le corps de Christ. Son Esprit Saint nous anime. Il nous révèle les uns au travers des autres le plan de Dieu. Oui, le plan de Dieu, ce qu'il convient de demander dans nos prières, car nous ignorons souvent totalement ce qui est bon. C'est lui qui nous inspire alors. À quoi sert de prier hors du plan de Dieu? Je vous le demande. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez donc à tout moment en esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il ne s'agit plus de rebâcher ou de rebâchage, mais il s'agit du souffle de l'Esprit-Saint qui ordonne d'abord notre adoration, puis ensuite notre intercession. Nous siégeons ensemble dans les lieux célestes en Christ. Et c'est alors que débute la lutte contre les puissances des ténèbres. Par la foi, nous pouvons les chasser et nous pouvons remporter la victoire. Gloire au Seigneur. Croyez-moi, tout cela est absolument sérieux et de la plus haute importance. Voyez-vous, dans un couple chrétien, par exemple, tout est donné pour parvenir à cette unité parfaite. Pourtant, il est bien rare que celle-ci se réalise pleinement, ou alors elle ne dure pas. On retombe dans les vues de la chair, on voit l'autre au lieu de voir Christ en lui. Eh oui, et puis on est rapidement divisé. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et c'est la même chose dans l'Église. Et ceci comme le montre l'exemple de ces deux anciens d'une Église parlant d'un autre serviteur au passé un peu difficile. Voilà ce qu'ils ont dit, ces deux merveilleux anciens serviteurs. Avons-nous pas oublié ce fameux serviteur X? Il a vraiment été coupable d'adultère. Il a fait cela il y a 15 ans dans notre église. C'est affreux. Et le pire, avec une sœur en Christ qui était pourtant tellement appréciée chez nous. De ce fait, nous avons été obligés, bien entendu, de lui interdire l'accès à notre église. C'est tout juste qu'ils n'ont pas mis des gardes de corps. Je doute fort, à moi en tout cas, je suis très incertain que dans cette attitude dénuée du pardon, que tous les critères puissent être réunis pour que le Seigneur puisse accomplir, accorder une double mesure de bénédiction à cette Église et y préparer un réveil puissant qui réjouirait et retomberait sur toute la ville tout entière. Oui, là où il n'y a pas d'unité à cause des si et des ça et des mais, la prière ne peut pas être victorieuse. Si vous n'arrivez pas à tourner la page parce que la personne s'est repentie amèrement, elle a versé des larmes, alors notre devoir, croyez-moi ou pas, c'est de pardonner. Ah oui, vous pouvez parcourir toute la Bible, vous trouverez la réponse. Et n'oubliez jamais qu'une cellule de prière ne peut se multiplier et être le témoignage vivant de la puissance de Dieu qu'à la condition d'une parfaite unité, d'une bonne entente, sans privilégier l'un par le rapport à l'autre en fonction de nos critères à nous, d'honorabilité. Là où une authentique unité se crée et dans un amour profond en Christ, croyez bien que sa force, la puissance de l'Esprit Saint, pourra agir et le mal sera totalement anéanti. Chers frères et sœurs et chers amis, quelle est la stratégie de la prière? Dans Éphésiens chapitre 3, verset 19, le grand pionnier du règne de Dieu, surnommé Saint Paul, s'est décrit les dimensions gigantesques de l'amour de Christ. Ce sont la largeur mondiale, cosmique, la longueur illimitée, éternelle, et la profondeur insondable jusque dans les gouffres du cœur de l'homme. La psychanalyse entrevoit ces gouffres du cœur. La hauteur atteint les plus hauts sommets de la pensée de Dieu et les plans les plus secrets de son adversaire. Ces dimensions de l'amour de Christ existant bien avant la création du monde, ils doivent être en adéquation avec celles de notre prière. Et ça, croyez-moi, c'est absolument important. Oui, chers amis, voyez-vous, de nombreuses personnes se demandent pourquoi leurs prières n'ont jamais été exaucées alors qu'elles étaient pourtant manifestes. En réponse à cette question, je me reporterai à Saint Matthieu, chapitre 10, verset 1, et toujours l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, verset 21. Les disciples de Christ avaient été sollicités pour guérir un enfant épileptique. Ils avaient échoué, nous le savons, malgré le pouvoir qui leur avait été conféré par Christ. Et il a dit, voyez-vous, cette espèce ne s'en va que par la prière et le jeûne. Saint Matthieu 17, verset 21. Il y a donc des maladies, vraiment, il y a des situations qui sont ardues. des caractères difficiles, des hérédités vraiment tenaces auxquelles on ne peut remédier que par une prière intense capable d'atteindre les tréfonds du cœur. Oui, le cœur de l'homme est pollué, et comment ? Jusque dans le subconscient. Et il est soumis à des pulsions irrésistibles et incompréhensibles. Tout cela rend les choses très difficiles. Il faut que la prière parvienne à démasquer le prince des mensonges qui maquille les craintes en agressivité, en culpabilité, en accusation d'autrui et en complexe d'infériorité ou même en orgueil démesuré. Une action en profondeur est donc indispensable. Il faut une prière qui réclame et reçoive, et ceci au sein de la communauté, des dons spirituels tels que le discernement des esprits, le pouvoir de chasser les démons, etc. Et au préalable, il faut demander le discernement sous peine de causer encore plus de mal et de tort par une utilisation totalement erronée de ces dons, qui sont, croyez-moi, la cause de multiples ravages. Il faut être très sérieux et demander les dons qui sont indispensables. J'aimerais ajouter que nous devons surtout apprendre, en cas de résistance, ce qui se cache sous cette résistance. Voyez l'exemple de Daniel chapitre 10, versets 12 et 13, qui était un merveilleux prophète. Pourtant, bien qu'il était expérimenté, ayant appris par l'ange qui a été envoyé de Dieu pour lui-même, il avait été retardé par une résistance de 21 jours, empêchant ainsi sa prière d'être exaucée. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Plutôt que de nous dresser les uns contre les autres, chers amis, pourquoi ne pas nous unir afin de parvenir au but vers lequel notre chef suprême nous appelle? Chers amis, prions ensemble pour terminer. Mon Dieu, je voudrais me consacrer à toi. Je voudrais me recueillir, je voudrais être fort, ô mon Dieu. Je sens qu'en toi seul est la vérité, Christ est la vérité. Nous aimons le Christ. Mon Dieu, le monde sera heureux et beau quand le Christ régnera. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de souillure, mais de l'or et du cristal, et les larmes des saints seront devenues des perles. Ô mon Dieu, que te dire en ma sincérité? Tu es la force, fortifie-moi. Tu es la paix, pacifie-moi. Mon Dieu, que nos vies soient devant toi comme un tapis étendu sur ton chemin, afin que tu puisses y passer. Quand nous voyons, les hommes te pressentent. Quand nous, ils découvrent Christ. Mon Dieu, quand toi s'opèrent les synthèses, se réparent toutes les erreurs, s'accomplissent tous les longs patients obscurs exploits. Quand nous, tu sois exalté, et que en nous, Christ soit salué, et que les âmes vivent et soient sauvées. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et à bientôt à nouveau. Soyez bénis. Au revoir, très chers amis.